BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir sincèrement de vous retrouver encore une fois pour votre rendez-vous tech du week-end. Bienvenue dans De quoi je me mêle, bienvenue sur BFM Business. Si vous nous regardez ou nous écoutez à la radio ou à la télé, bienvenue sur YouTube aussi, puisque vous le savez, De quoi je me mêle est en exclu dès le vendredi midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et bienvenue à vous qui nous écoutez, qui êtes fidèles au podcast de quoi je me mêle, avec toujours le petit bonus, la petite exclue, quelques minutes supplémentaires dédiées spécialement à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Pour ce De quoi je me mêle, écoutez, on va se faire plaisir, quasiment un petit peu moins d'une heure dédiée à toute l'actualité tech avec la team de quoi je me mêle que je vous présente dans un instant, le hashtag DQJMM bien évidemment pour réagir à tout ça. Merci encore une fois d'être là et bienvenue bien sûr. Un De quoi je me mêle avec non pas deux experts, mais trois. Waouh, c'est la classe. Et on a fait péter le budget, les amis. Anthony Morel est là. Salut, Anthony.
Salut, François. Salut à tous. Oui, ça coûte cher. Hein.
Oui, c'est
moi,
vrai.
Je peux vous dire, je prends bonbon.
C'est vrai. Tu acceptes tous les systèmes de paiement.
Ah oui. Alors, il n'y a aucun problème.
Aucun problème.
Swile, ticket voilà. Restaurant, tout ce que vous...
Les cryptos aussi.
Les cryptos, éventuellement. Oui, bien sûr, tout.
Très bien. Anthony Morel, BFM Business, RMC, bien sûr. Nicolas Guyot est là aussi. Salut, Nicolas.
Salut, François. Salut, Anthony.
Voilà.
Salut.
Que vous connaissez pour les plus vieux de quoi je me mêle. Voilà, vous connaissez la voix de Nicolas et maintenant vous voyez son physique avantageux.
Voilà.
Quand même. Ça, c'est quand même
ça
impressionnant. Et qui est rédacteur en chef de Clubic. Et nous avons aussi JB de The E-Collection qui est là. Salut JB.
Et rebonjour à tous.
Salut.
Ça va, JB ?
Bah ouais, comme d'hab, je suis trop content de venir ici.
Bah écoute,
c'est trop bien.
On est tellement heureux de t'accueillir. JB, YouTuber, bien sûr, que vous suivez sans doute sur les réseaux sociaux aussi, qui fait plein de vidéos sur la tech, avec une préférence évidemment pour tout l'écosystème Apple. Hein. Ça, c'est un peu ta marque de fabrique.
Patte.
Tiens, puisqu'on parle d'Apple, on va tout de suite enchaîner. Là, écoute, tes bagages sont prêts.
Oui.
Quasi.
Exactement.
Voilà, il manque plus que 2-3 petits détails pour que tu puisses partir à San Francisco. Et après arriver à Cupertino, puisque tu seras à la WWDC. Hein.
Qui démarre le 10 juin.
Le 10 juin,
la voilà. La conférence des développeurs où Apple va annoncer tous les logiciels qui vont sortir petit à petit tout au long de l'année.
Ouais.
D'iOS à Vision OS. Mmh. La première fois que Vision OS va avoir droit à une mise à jour.
Ça va être cool. Et bien sûr, alors cette WWDC sera à suivre dans Tech & Co, puisque vous le savez peut-être pas, mais j'ai le plaisir de vous présenter Tech & Co, la quotidienne, tous les soirs sur BFM Business de 20h à 21h30 et le 10, donc lundi, émission spéciale, Anthony. Alors là, on met les petits plats dans les grands. Au début de l'émission, on aura déjà une heure en fait de keynote, donc on pourra vous résumer tout ce qui a été annoncé. Et puis on vivra, évidemment, jusqu'à 21h30, toutes les informations, en fait, toutes les nouveautés qui seront annoncées lors de cette keynote. Rendez-vous donc lundi sur BFM Business dès 20h en direct pour suivre ce rendez-vous. Justement, alors, l'une des rumeurs importantes, il y en a pas mal, hein, mais l'une des rumeurs importantes, on en parlait la semaine dernière, on ne va pas y revenir hein, sur les rumeurs, mais c'est le Vision Pro,
ouais.
JB. Visiblement, il pourrait arriver chez nous là, dans les jours qui viennent.
Il devrait même arriver chez nous dans les jours qui viennent, mais pas que chez nous. Il devrait arriver aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine et à Singapour. Courant juin ou juillet, si on pousse un peu, si ça se décale un peu. Il est sorti en février aux États-Unis. Moi, je l'utilise au quotidien. Ben, j'ai très hâte qu'il arrive pour avoir un peu le retour des Français et d'autres pays un peu européens pour mettre la tête dedans.
Donc, il serait annoncé en fait au moment de la WWDC. Parce que la version US avait été annoncée l'an dernier.
Ce serait la même version. Ouais.
Oui, c'est ça, ce serait la même version. Mais là, pour le coup, ils en profiteraient pour annoncer la sortie internationale.
Exactement, je pense qu'ils vont essayer de médiatiser un peu tout ça et pas juste faire un communiqué de presse. Mais du coup, ils vont, je pense, lundi, annoncer la disponibilité en dehors des US.
Après, de ce qu'on comprend, de ce que j'ai lu, et notamment de ce que dit le fameux Ming-Chi Kuo, dont on parle régulièrement, qui est un analyste qui a ses entrées très bien renseignées auprès des fabricants de composants, donc de tout l'écosystème Apple, il est extrêmement présent. Et ce qu'il explique, c'est que si la sortie est annoncée à ce moment-là, alors qu'elle aurait peut-être dû être annoncée un petit peu plus tard, c'est parce que les ventes ne se portent pas extrêmement bien, et que du coup, Apple a du stock, et que, en fait, ils avaient peur d'être un peu short et de pas pouvoir fournir les États-Unis dans un premier temps. Visiblement, ça se passe pas aussi bien que prévu et donc du coup, ils vont ouvrir les vannes à l'international en espérant
ils
peut-être...
Ils ont réduit la production, hein, je crois d'ailleurs.
Oui, ils ont réduit la production.
Donc, Nico, est-ce que tu attends de chausser le Vision Pro?
De chausser le Vision Pro, non, mais c'est toujours intéressant en plus sur quand ça sort sur un marché local, ça permet de voir déjà, parce que c'est vrai que jusqu'ici on a joué avec, mais on n'a pas joué au quotidien, on n'a pas joué avec nos applis du quotidien, etc.
Sauf JB.
Et, ah oui, mais lui, il est connecté, seul, hein. Il est ultra connecté. Il se balade avec son Vision Pro dans son appart.
C'est la première fois depuis la sortie du Vision Pro que je le vois sans le Vision Pro, d'ailleurs.
Je vois mes yeux.
Oui, c'est vrai. Étonnant.
Donc, peut-être la prochaine émission sera tous avec des Vision Pro sur la tête.
Ça va être cool. Voilà.
Non, mais ça va être intéressant de voir au quotidien avec tes applications en local, etc. Ça va être.
Juste, on va enchaîner parce qu'on a plein d'actu, mais ton ressenti, ça fait maintenant plusieurs mois que tu utilises le Vision Pro. Est-ce que tu accuses pas une lassitude quand même?
Ça a diminué, c'est sûr. J'utilise beaucoup moins qu'avant, mais j'utilise quand même tous les jours, tous les deux jours, principalement pour monter mes vidéos, pour regarder des films et dans les transports surtout. Je prends souvent
tu
les
montes,
transports.
Tu montes tes vidéos
sur... Je monte mes vidéos dans mon ordi, mon Mac, je déporte l'écran et on passe d'un 13-15 pouces à un écran géant, sans limite, sans lag, sans bug de son. C'est instantané et c'est vraiment pratique. Et c'est surtout dans les transports, dans le train, dans l'avion, même chez soi, juste pouvoir avoir un contenu immersif, géant, et être coupé du monde, c'est vraiment pratique. Il faut le tester au quotidien vraiment et sur le long terme pour comprendre un peu l'intérêt de ce produit. Parce que c'est pas en un jour ou deux qu'on peut vraiment se dire c'est sympa ou pas.
Dans le métro, t'as essayé ou pas ?
Non, moi je suis pas de cette team-là de sortir dans la rue avec, ça sert à rien et ça marche pas tout simplement.
Ouais, ça marche pas et puis bon, je pense que c'est un peu...
Et c'est même dangereux vu
c'est un peu lunaire hein, quand même.
Ah bah c'est clair.
Bon, reste le prix.
Hein. Dans le métro, je pense que tu te le fais arracher en deux.
Non, mais c'est clair. Et puis même, enfin, je veux dire, dans le métro, t'as envie, t'es obligé de regarder ce qui se passe, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Mais oui, il manque le prix maintenant. Parce que, rappelons, le prix...
Bah, c'est 3 500 $ hors taxe. Donc allez, on fait du TTC, ça monte à 3 800. En France, il y a souvent des taxes qui se rajoutent, donc peut-être 4 000.
Wow.
Peut-être qu'Apple va se dire, on va le faire en prix 1 euro égal en dollars, peut-être 3 500.
Ouais, peut-être qu'ils voudront booster un petit peu les ventes. Ça va être intéressant de voir tout ça, parce que les informations qu'on aura à la WWDC concernant le Vision Pro expliqueront peut-être cet échec, parce que c'est le début du marathon du Vision Pro, mais en tous les cas, on va dire l'attentisme qu'il y a autour de ce produit, ça va être cool.
Et puis bon, comme le marché se porte pas non plus super bien en ce moment, et les fabricants de téléphones ont du mal, etc.
Je pense que les Français
tirent un peu la langue. On arrive dans une période en plus, ça va être les vacances, la rentrée, là où c'est le moment de l'année où on sort quand même pas mal d'argent. Ça va être...
Et surtout, c'est une période où il va faire chaud, et porter un produit comme ça sur sa tête pendant plusieurs heures.
J'avais pas pensé à ça.
Je l'ai testé, ça tâche très chaud après.
Ouais.
Chez Amazon, il y a bien un gars qui vend des ventilateurs pour mettre au-dessus.
T'as bien un accessoiriste chinois qui va te sortir un truc
horrible qui défonce le design.
Après, de toute façon, le public numéro un, je pense que ce sera les entreprises. Hein, mais,
comme ou alors, les fans fortunés d'Apple.
Oui, c'est ça. Toujours les early adopteurs qui veulent absolument avoir l'objet. Mais après, je pense que les. Voilà. Mais après, je pense que le public, enfin, en tout cas, ceux qui vont commencer à s'emparer de cet outil-là, c'est comment ça peut remplacer les vidéoconférences, comment on peut s'en servir dans le domaine médical. Enfin, il y a plein de. Pour le coup, c'est là, à mon sens, que les premières applications vraiment intéressantes commencent à arriver.
Moi, je me dis quand même, l'équation est compliquée pour Apple, hein, avec un produit dont on cherche encore les usages à un prix aussi élevé.
Bien sûr.
C'est. Waouh! C'est chaud.
Ça va être compliqué.
Et puis, première génération de produits. Hein.
Alors,
chez Apple, voilà, on en a vécu beaucoup. Hein.
C'est un marathon qui débute.
Voilà,
Apple se lance dans cette aventure. Évidemment, ce ne sera pas le produit du succès. Hein. Il lance quelque chose. On en a beaucoup parlé. Ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue.
Vous vous souvenez de l'Apple Watch, hein, la première version de l'Apple Watch, et c'est pas très bien vendu non plus. On se demandait un peu à quoi ça allait servir. Et puis, il y a des fonctionnalités qui se sont ajoutées, notamment des fonctionnalités médicales. Et là, on a commencé à avoir l'intérêt. Et finalement, c'est devenu un objet qui, dans les chiffres d'Apple, n'est pas du tout dérisoire.
Ça commence encore
plus loin. Hein. Tu prenais l'iPhone, le tout premier iPhone. On a détecté le potentiel, mais il n'était pas 3G. Il y avait plein de petits trucs qui n'y avait pas beaucoup d'appli, etc.
Non, Steve Ballmer, il a bien détecté.
Ah, okay.
Non, mais c'était intéressant,
c'est que
globalement, on a vite vu.
Avec le doigt, c'est débile.
Qui est prêt à payer $500 pour un téléphone
Des housses à stylés. Non, mais en fait, le truc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on va avoir le potentiel au quotidien, c'est là, en fait, on va pouvoir se projeter. On va se dire, ah ouais, peut-être que 1000 balles de moins, ça va le faire. Peut-être un peu plus léger, ça va le faire. Peut-être un peu plus ergonomique. Moins de... plus de batterie, la molette, voilà, ces trucs au quotidien, en fait, qui vont peut-être ajuster, qui va permettre à Apple d'ajuster son produit. Quoi.
Ouais, c'est sans doute un peu l'objet préhistorique d'un produit qu'on rêve, dont on rêve. Mais...
Les lunettes, par exemple.
Les lunettes.
Et là, on rebondit sur le deuxième sujet.
Ouais.
Je l'entends. Comme ça,
attends, il est fort.
JB veut prendre ma place.
Il est très très fort. Oui, alors là, c'est vrai qu'il y avait un petit côté is no good. Ça, j'avoue.
Là, franchement, il m'a balancé ça comme ça. Paf.
Je l'aurais pas bien pris, moi.
La nouvelle génération.
Ouais, c'est ça.
C'est normal, c'est comme ça.
Ça va vite.
Bon, bon, Anthony, bah, alors l'actu justement.
Ben oui, une très belle transition effectivement, ouais, parce qu'on voulait parler, et c'est indirectement lié, parce que ça pourrait être un concurrent éventuellement pour le Vision Pro dans les mois, dans les années qui viennent, c'est cette alliance assez inattendue entre Google et Magic Leap. Alors est-ce que vous vous souvenez de Magic Leap, mais est-ce que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent se souviennent de Magic Leap? J'en suis pas sûr, c'est une entreprise qui avait fait énormément de hype il y a quelques années, ils avaient levé des milliards de dollars, c'était un truc de fou.
C'était vraiment la start-up bankable.
Exactement, dans le domaine de la réalité
milieu des années 2010, on va dire.
2012.
Ouais, c'est ça. Ouais, 2012, tu te souviens de la vidéo de la baleine, là? C'était incroyable. Ouais. C'était les premières vidéos de réalité augmentée. Alors, la vidéo de démo était absolument dingue, où tu avais l'impression, dans un gymnase, et tu avais une baleine qui sortait du sol, comme ça, c'était absolument dingue, et on avait l'impression qu'elle jaillissait comme ça devant nous. Et donc, c'était les prémices de la réalité augmentée, et on se disait que Magic Leap, c'est l'entreprise qui allait réaliser ce fantasme technologique et le rendre, en faire une réalité. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors ils ont sorti un casque en 2018 ou 2019, je n'ai plus la date exacte, qui a pas du tout fonctionné. Enfin, il y avait pas mal de bugs. C'était pas extraordinaire. Et donc en gros, ils ont fait un flop. Et donc là, ils s'allient avec Google qui eux aussi ont des grosses ambitions dans le domaine de la réalité augmentée et qui ont aussi bossé sur les Google Glass à l'époque. Donc c'est, j'allais dire, l'alliance de deux losers d'une certaine manière, pas Google en tant que tel, hein, mais les Google Glass plus Magic Leap, mais c'est quand même l'alliance de deux produits qui ont échoué pour essayer de faire jaillir la lumière. Ouais. Et parce que c'est ça en fait l'enjeu là, c'est de travailler sur, alors comment ils disent ça, ils donnent pas beaucoup d'informations, hein, mais ils expliquent que ça va être le nouvel écosystème de XR, c'est ça, l'écosystème XR grâce à des offres de produits uniques et innovante. Bon, avec ça, fais ce que tu veux, débrouille-toi. Enfin, on croit comprendre que ça va être un travail sur soit des casques ou des lunettes, en réalité mixte, donc XR, donc des ordinateurs spatiaux, comme appelle ça Apple, et donc qui pourraient venir concurrencer Apple et Meta sur ce secteur, quoi.
Ouais. Alors, c'est déjà que Google travaille sur des nouvelles lunettes qui sont présentées à la Google I.O. dans leur vidéo, où justement, ils montraient Gemini dans sa version un peu d'IA et de conversation.
Un peu comme les lunettes Meta, finalement.
Exactement. Et Google travaille vraiment sur ça. Ils nous l'ont dit sur place. Oui, c'est des projets, on a, et ils sortiront un jour, mais on ne sait pas quand. Peut-être c'est avec ça.
J'ai regardé le Leap 2, là, ce que c'était. En fait, c'est les mêmes tarifs que l'Apple Vision.
C'est aussi cher.
À l'époque.
Plus 3000, ouais.
Ouais, c'était 3500 $ à l'époque, etc. Et en fait, c'était un ordinateur, ce que tu disais, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est que ce qui va être compliqué, c'est d'arriver sur un marché où il y a déjà une solution. On l'a dit tout à l'heure, elle est un peu chère, etc. Mais bon, ils sont quand même bien installés déjà, Apple.
Designement parlant, le Magic Leap, c'était pas non plus. On avait l'impression d'avoir les lunettes de chariot à chocolaterie, quoi. Genre.
C'est vrai, ouais, un peu. Ouais, c'est vrai.
Ouais, enfin, quand t'as le Vision Pro, c'est pas terrible non plus, quoi.
Non, mais bon.
Ouais, mais c'est quoi. Cool.
C'est pas les mêmes usages, en fait, parce que je pense que t'as pas vraiment de la VR avec le Magic Leap. T'es plutôt en réalité augmentée, non?
C'était réalité augmentée, ouais, de mémoire.
C'est pas tout à fait le même usage. Ça va être intéressant, mais en tout cas, on voit que ça bruisse du côté de ce type de device.
C'est ça qu'on voit, effectivement.
Beaucoup s'y mettent. Ouais. Et là, on parle pas des Chinois, hein, les TCL, etc., les Oppo qui sortent des lunettes. Ouais. Enfin, on voit que tous les industriels de la tech s'intéressent aux lunettes et voient comment ils peuvent craquer ce truc-là, parce que c'est vrai que c'est l'outil, on va dire, le plus naturellement sur la tête, quoi. Enfin,
ceux qui sont malins, c'est Meta, hein. T'as vu qu'ils mettent à disposition des fabricants, des autres marques, hein, leur système d'exploitation.
Ouais.
Et donc, en fait, peut-être devenir le nouveau Windows.
De la VR. Ouais, ouais.
C'est pas bête, hein, parce que c'est vrai que c'est toute la partie logicielle qui est quand même très compliquée à gérer. Et si tout le monde sort son propre logiciel, on se retrouve comme dans les années 80, 70, avec 10 standards en parallèle, et puis de toute façon, tout le monde, il laisse sa chemise. Hein.
Ouais, puis je trouve qu'ils ont une stratégie qui est assez intelligente pour ne pas effrayer l'utilisateur avec une stratégie vraiment par étapes. Ils ont commencé avec les Ray-Ban, avec quelques fonctionnalités très basiques, l'appareil photo, la caméra. Là, tu as la nouvelle version qui est sortie avec des fonctionnalités d'IA plus poussées, alors qui ne sont pas encore dispo en France, je crois, pour des questions de réglementation.
J'ai pu les essayer aux US justement
et
il y a 3
semaines. Et c'est dingue ça.
Tout le monde a ses lunettes Ray-Ban Meta, mais tout le monde. Et du coup, ils sont tous là avec l'IA à dire c'est quoi ce plat, c'est quoi ce chien, c'est quoi cette voiture. Juste à ses lunettes. Et la lunette nous dit c'est un Rottweiler, je ne sais pas quoi. Et toutes les informations qui sont données.
Et c'est ça que je trouve hyper malin. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu as la deuxième brique. Et effectivement, c'est ah ouais, putain, c'est génial. Ces lunettes, elles peuvent analyser mon environnement, me donner des informations contextuelles. Et je pense que la troisième brique, ce sera d'intégrer la réalité augmentée ou la réalité mixte, un peu comme l'avaient fait les Google Glass à l'époque. Sauf que les Google Glass, c'était trop soudain, c'était subi. Tu avais ce côté hyper intrusif avec la caméra intégrée, avec les lunettes qui ressemblaient pas du tout à des lunettes. Ça a fait peur à tout le monde. Là, je pense qu'en y allant petit à petit, c'est un peu comme quand tu mets le homard ou la langouste dans l'eau. Puis tu mets petit à petit, elle se rend pas compte en fait qu'elle est en train de chauffer. Mais tu vois, c'est un peu la même chose là. Tu vois, Meta avec les utilisateurs.
On pense à tous les homards qui nous écoutent. Ouais. C'est horrible cette émission.
Non, c'est vrai, c'est assez terrible. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que voilà, ils y sont allés progressivement. On va voir jusqu'où ça va. Mais je trouve que ce brique par brique est plutôt malin par rapport à d'autres stratégies qui visent à regarder tout ce qu'on peut faire dans ces lunettes. Sauf qu'à la fin, personne les achète quoi.
Ouais. Non, et puis en plus, l'approche lunettes est quand même vachement plus accessible que l'approche casque en fait. Moi, je trouve. Et les lunettes, on se dit, c'est un accessoire de tous les jours.
Après, vous en portez aussi trois déjà.
C'est vrai.
Ouais. Facile.
Toi, moi,
j'en porte pas.
C'est vrai. Peut-être des lunettes de soleil, mais peut-être que tu serais capable de porter des lunettes au
pour
quotidien.
Pour Apple, il serait prêt à porter des lunettes à
Même pour Meta, moi, j'ai les Meta, j'ai les mets tout le temps parce qu'elles sont vraiment pratiques et elles existent aussi en version normale, donc à verre nu, entre guillemets.
Oui, c'est-à-dire que tu prends les mêmes montures et tu mets des verres blancs.
C'est un support, en fait. C'est juste un support. Et voilà. Bon, après, tu peux mettre tes Meta dans ton Apple Vision, voir ce que ça donne, mais bon, je suis pas sûr que la mise en abîme.
Bon, t'as 10 sur 10 aux deux yeux, c'est ça le problème.
Ouais.
Et voilà.
Ah, mais avec le temps, t'inquiète pas.
Tu verras dans quelques années, tu auras des lunettes.
Surtout, il paraît qu'Apple Apple Vision Pro et problème pour les yeux après. Non, j'ai
connu.
Mais t'as mal aux yeux après le Vision Pro au bout d'un moment ou pas?
Non, mais je sens que les yeux s'assèchent. Parce que comme t'es vraiment dans un environnement totalement clos et que
moi,
j'y reste
pendant 5
heures, tu vois. Là, pendant Roland Garros, j'ai regardé des matchs de 4-5 heures dans Vision Pro sans bouger.
Ah ouais. Donc faut ajouter le ventilateur et l'humidificateur. Autre accessoire très malin.
Et alors ça donne quoi de regarder Roland Garros dans Vision Pro?
MyCanal en version géant.
Et c'est incroyable.
C'est juste que tu peux l'amener avec toi où tu veux et voilà.
Ouais, d'accord.
Et tu déranges pas les gens qui sont à côté.
Mais la qualité d'image est parfaite ou pas? Parce que
c'est vraiment comme à la télé pour le coup.
Ouais, d'accord.
Ouais, vraiment très très.
C'est dommage parce que en ce moment sur la TNT en fait Roland Garros est diffusé en 4K. Alors imagine si tu pouvais récupérer ce signal et le mettre dans le Vision Pro, parce que sur MyCanal c'est pas en 4K, je crois.
Non.
Donc imagine, tu aurais une immersion encore plus incroyable quoi.
Mais ils ont pas fait des contenus spécifiquement conçus pour Vision Pro ou pour les MetaQuest?
Mais pas par Roland Garros par exemple, il y a rien du tout, mais il y a certains contenus qui sont conçus exactement pour ça.
Parce que pour le coup là, pour le coup dans le domaine sportif, tu vois bien la valeur ajoutée que tu peux avoir, c'est même pour faire de la vue à la première personne, changer de place et de placement par rapport à dans le stade de l'enceinte,
y compris pour les consommateurs et les annonceurs et les diffuseurs.
Bien sûr.
Bon, on a parlé du Vision Pro, on a parlé des lunettes, du projet de lunettes chez Google. Si on parlait maintenant de bagues, parce que voilà, il y a aussi le doigt qui est, on va dire...
Au doigt et à l'œil.
Anthony, incroyable. Nous sommes cernés, Nicolas. Attention.
Il justifie son salaire. Attends.
C'est
le ministre.
Et voilà.
Salaire de ministre, hein, t'as vu, il est au courant.
Il
est au courant de ton salaire. Comme les youtubeurs, tu vois, et tout, il y sait. Non, alors les bacs, c'est intéressant parce que là aussi, c'est quelque chose qui excite un peu tous les industriels de la tech. Il y a pas mal de startups qui ont lancé des bagues connectées, même en France d'ailleurs. Hein. Sauf que là, la nouveauté, c'est que Samsung s'apprête à sortir sa bague, hein, Anthony, qui devrait être annoncée là bientôt, je crois.
Tout à fait.
D'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs comme quoi, voilà, il y a un événement Samsung qui pourrait débouler bientôt. Hein.
Le 10 juillet.
Ouais. Le 10 juillet.
Et sorti courant août normalement, de ce qu'on apprend, parce que c'est ça qui est amusant, parce qu'effectivement ça fait quelques mois maintenant qu'on vous parle de cette Galaxy Ring et de toutes les rumeurs qui entourent la sortie de cette bague connectée. Mais là, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que Samsung attaque en justice préemptivement une autre entreprise qui s'appelle Oura, qui fait elle aussi des bagues connectées, alors qu'on connaît depuis quelques années, hein, c'est une belle entreprise, ils ont des bagues hyper high-tech avec des fonctionnalités liées à la santé, ils avaient fait pas mal parler d'eux au moment du Covid notamment, parce qu'il y avait des études qui montraient, je sais pas si ça a été validé depuis, mais qu'en utilisant ces bagues, on pouvait à partir des variations de rythme cardiaque et d'un certain nombre de marqueurs détecter des symptômes du Covid, enfin que quelqu'un avait le Covid avant d'avoir fait des tests PCR, etc. Et à tel point que je me souviens qu'à l'époque, c'est la NBA, donc le championnat de basket américain, qui s'était équipé de ces bagues. Toutes les équipes NBA avaient acheté, je ne sais plus combien, des milliers de bagues Oura, donc ça leur avait fait un coup de pub énorme. Et donc, cette entreprise, alors elle a plein de brevets, en fait, sur les bagues connectées. Et Samsung les attaque en justice parce qu'ils ont peur que Oura ne les attaque eux en justice quand Samsung va lancer sa vague. Enfin, tu vois, le truc, c'est en gros, il y a une guerre de brevets qui est en train de se mettre en place.
Et là, t'as les avocats. Allez-y,
bah, c'est exactement ça.
Allez-y,
parce qu'apparemment, Oura, en fait, a un passif. Ils ont attaqué. Tu disais, il y a beaucoup de startups qui se sont lancées sur ce marché et ils les ont toutes attaquées systématiquement, y compris les Français Circular, hein, qu'on connaît bien. Ils les ont toutes attaquées en disant, ben non, vous volez nos technologies. Et donc Samsung se dit, ben, ils vont faire exactement la même chose avec nous, évidemment. Et donc, il y a une bataille judiciaire qui est en train de se mettre en place. Et dans les documents de ce procès, eh ben, on en apprend, il y a quelques détails comme à chaque fois. Samsung a dû lâcher dans les documents officiels. Donc, on sait que la bague a été, le design a été finalisé mi-mai, donc ça vient de se terminer. La production de masse doit commencer mi-juin, donc dans quelques jours, et elle est attendue sur le marché américain autour du mois d'août. Donc elle sera peut-être annoncée effectivement en juillet, ce serait assez cohérent. Donc on sait que ça va arriver, et donc il y aura des fonctionnalités liées à la santé, ce à quoi on pouvait s'attendre. Là, visiblement, dans les documents du procès, tu as par exemple des captures d'écran qui montrent un score d'énergie qui est basé sur un certain nombre de métriques comme le sommeil, l'activité, le rythme cardiaque, la variabilité du rythme cardiaque, enfin plein de choses. Ça, comme ce qu'on a sur les montres connectées. Ça, on pouvait s'y attendre, mais c'est confirmé à travers ces documents secrets.
Vitality Score. En fait, mais c'est marrant parce qu'en fait, ils les ont déjà présentés. On les a vus au CES.
Oui.
Bon, pas au CES. C'était pas au Mobile World Congress.
Mobile World Congress.
C'est ça.
Voilà. On n'a pas pu.
Voilà. Mais le design, en tout cas, on l'a vu.
On le voit. Il y a des vidéos qui tournent.
Ils sont prêts, quoi.
Oui, ils sont prêts.
Ils sont vraiment prêts. Mais effectivement, il y a ces.
Donc, ils doivent peaufiner, à mon avis, tout le soft, tous les algorithmes.
Mais c'est quand même assez étonnant qu'ils attaquent maintenant, quoi, qu'ils contre-attaquent avant de se faire attaquer. Oura, il y a notamment 5 brevets. Je trouve ça quand même assez étonnant que globalement.
C'est compliqué de faire une bague différenciante des autres côté design. Une bague, c'est.
Oui, une bague, c'est rond, quoi.
Ouais, ça dit, Oura, c'est 100 brevets et 270 brevets en attente de dépôt. Hein.
Ah, c'est une
attente de validation.
C'est lourd. C'est une très, très belle boîte.
Ah, c'est une grosse
boîte. Mais c'est vrai que, la puissance de Samsung devrait quand même peut-être imposer ce nouveau form factor. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste anecdotique, les bagues connectées. Demain, Samsung, avec sa puissance, parce qu'ils vont nous faire le coup, t'achètes un téléphone, on t'offre la bague. Enfin, je veux dire, c'est évident. Ou alors, tu vois, ou t'achètes la montre connectée, on t'offre la bague aussi.
Justement, ce serait doublon avec la montre connectée.
Est-ce que ça sera les mêmes? Est-ce que tu auras les mêmes informations?
C'est à peu près les mêmes fonctionnalités.
Sur bonne santé et même paiement, j'ai vu qu'on pouvait payer avec ça.
Ouais, paiement NFC
avec cette bague. Mais vous, aujourd'hui, vous porteriez une bague connectée?
Alors, moi, je suis pas sûr. Mais
ce qui peut être intéressant, c'est pour ceux qui ont une montre que tu l'enlèves pour dormir. Tu vois, c'est la montre, le capteur pour dormir, quoi, le sommeil, le suivi du sommeil sur la montre. Moi, c'est un truc que j'utilise quasiment jamais. Ça me gaffe de dormir avec ma montre.
Bah ouais,
voilà. Une bague, peut-être que.
Ouais, peut-être.
Voilà. Peut-être voir. Mais après, voilà. Après, il y a aussi tout le truc. Ils vont nous faire le coup comme Apple avec Samsung, les angles ronds, les machins, etc. Je pense qu'on va partir sur un truc un peu ce qu'on disait sur le design. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que.
Et puis
après une bague, ils vont pas faire une bague carrée, quoi, a priori. Donc,
Peut-être une bague qui se porte au poignet.
Alors, pour les extraterrestres.
Ah peut-être. C'est possible.
Je crois que le prix est assez élevé quand même pour cette petite bague. Hein.
Ah oui.
Moi, je pensais de ce que j'ai un peu lu, c'est dans les 300-400 euros pour.
Waouh, non mais c'est
un budget,
c'est pas possible.
Ah, bah, prix d'une montre.
Moi, ça m'étonnerait pas en même temps. Moi, ça m'étonnerait qu'elle coûte 100 euros, tu vois.
Esprit-là.
Ouais, c'est ça. Chéri,
écoute, tu sais quoi?
J'ai cassé le PEL.
Voilà, je te demande, tu deviens ma fiancée, mais je t'offre la bague Samsung. Ouais.
Mais c'est moi qui l'utilise.
Je pense qu'il risque d'avoir des petits problèmes à la maison.
C'est clair. Ouais. Mais si tu te places du point de vue de toutes ces startups, enfin startups et belles entreprises aussi, hein, comme Oura, enfin, ces challengers en tout cas sur ce secteur-là, quand ils voient arriver un mastodonte comme Samsung et peut-être demain Apple, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit ils vont nous écraser, donc il faut qu'on contre-attaque, donc on les attaque en justice.
Ou alors
ça va ouvrir le marché, permettre, enfin tout le monde va avoir des bagues connectées et donc nous aussi on va en vendre, on va profiter de cette dynamique.
Et on va se battre avec nos armes, nos technologies pour être meilleurs que Samsung.
Tout à fait.
Ou on se fait racheter par un gros.
Évidemment.
Voilà, comme
Le 10 juillet, on pourrait s'attendre à quoi, à ton avis, JB?
Sur les Z Flip 6, Z Fold 5, Buds Pro 2, je crois.
Et tu penses qu'ils annonceront la bague aussi?
Autant profiter, parce que c'est juste avant les JO, ils sont partenaires principaux des JO.
C'est intéressant là, parce qu'en fait, Samsung décale son événement d'été, le fait au début de l'été, le 10 juillet, avant les JO.
Certainement à Paris.
Ça va être intéressant et d'après ce que j'ai compris, le Z Flip risque d'être le téléphone officiel en plus.
Tous les 4 ans, il y a un téléphone officiel de Samsung pour les Jeux Olympiques.
Ouais.
D'habitude, c'était un smartphone classique entre guillemets de la gamme S. Bah là, cette année, ça devrait être le Z Flip 6.
Pas mal.
Ouais, intéressant,
on vous donne des petites infos quand même dans De quoi je me mêle. Vous avez vu les gars. Bon, on va suivre ça de près. Anthony est venu avec un petit appareil. car Anthony a deux passions dans la vie, la radio et les diagnostics médicaux. Il adore de temps en temps monitorer un peu ses amis, ses collègues au travail.
Ouais. Je suis complètement hypochondriaque, ça c'est la réalité.
Hein. C'est vrai ?
Ouais, tout à fait.
Je crois qu'on l'est tous plus ou moins, on va dire.
C'est vrai.
Toi, tu l'es beaucoup ?
Moi, je suis vraiment pas mal. Ouais. Donc, du coup, toutes les innovations santé, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup.
Ça te suit. Okay.
Ça me rassure. Enfin, je sais pas où ça me rend encore plus hypochondriaque.
c'est ça. Voilà. Exactement.
Façon, ça dépend comment on voit les choses.
Et donc, WeSings nous avait annoncé au CES cette année ce nouveau produit qui s'appelle le BIMO.
Tout à fait.
Et tu l'as quasi en exclu, quoi, parce qu'il n'est pas sorti.
Il n'est pas sorti. C'est vraiment un exemplaire de démo. Hein. C'est encore un prototype qu'on m'a prêté qui va sortir. Alors, apparemment, la sortie officielle, ce sera au moment de l'IFA de Berlin. Donc, c'est à la rentrée hein, où ils le montreront à nouveau et il sera commercialisé. On avait pu le voir au CES et le toucher, mais effectivement, c'est toujours un peu compliqué au milieu de la foule. Là, je l'ai, je peux vous le montrer. Vous pouvez le regarder, l'essayer. Donc, en gros, je réexplique un petit peu ce que c'est cet appareil que je trouve génial, qui pourrait s'inviter potentiellement dans les maisons de monsieur et madame tout le monde. C'est un outil qui permet de faire un check-up santé complet en une minute chrono. Voilà, bon, peut-être un petit peu plus longtemps, mais le pitch, c'est ça, globalement. Donc, en gros, ça va venir remplacer le thermomètre que tout le monde a aujourd'hui dans son armoire à pharmacie. C'est un peu le même format, d'ailleurs. Hein, tu vois, c'est un petit objet rectangulaire, une sorte de grosse clé USB. Mm-hmm. Il y a un thermomètre intégré, donc thermomètre frontal sans contact. Ça, c'est voilà, la base. Hein. Mais tu as aussi beaucoup plus que ça. Tu as un électrocardiogramme embarqué, donc tu as deux électrodes sur le côté.
D'accord.
Donc, ce que tu as dans certaines montres connectées.
Oui.
Et ce que tu peux faire.
WeSings, d'ailleurs.
WeSings aussi, d'ailleurs.
Balance, ouais.
Absolument. Et alors, WeSings, on les connaît pour leurs
montres, si je crois.
Tout à fait. On les connaît pour leurs montres, on les connaît pour leurs balances avec les balances connectées, etc. Tu as aussi, alors c'est ça qui est génial, un stéthoscope embarqué, donc qui te permet de faire des enregistrements de ton cœur et de tes poumons, donc enregistrement audio. Et en fait, toutes ces données-là, bah, tu vas pouvoir les envoyer au médecin. Et ce qui est hyper bien, moi pour moi, la révolution, c'est que la téléconsultation d'aujourd'hui, c'est un peu pourri. C'est-à-dire, t'es en visio avec le médecin.
C'est un peu le couteau suisse de la téléconsultation.
Bah, c'est ça, en fait. T'imagines, t'as ça. T'es en téléconsultation avec le médecin. Moi, franchement, aujourd'hui, les téléconsultations, j'hésite à y aller parce que je me dis, bon, bah, le médecin, en fait.
Ouais, il va voir quoi ? Il va voir ta tête.
Il voit ta tête. Il peut juste discuter avec toi, il peut pas t'ausculter, il peut rien faire. Avec un petit outil comme celui-ci, en plus, si tu couples ça avec la balance, le machin, etc., bah, en fait, t'as quasiment une consultation comme si t'étais dans le cabinet du médecin, quoi. Parce qu'il peut vraiment.
Comment ils ont accès à ces données les médecins ?
Alors ça passe par leur application, normalement c'est tout est chiffré, protégé, etc.
C'est vraiment WeSings.
Non, c'est WeSings, c'est vraiment dans leur écosystème à
eux. C'est vrai, ça aurait du sens avec Doctolib, t'imagines un peu le truc.
Bien sûr, t'as raison, ils pourraient tout à fait faire ça.
Doctolib qui s'apprête à lancer le paiement directement, je ne sais pas si vous avez suivi, le paiement des consultations médicales directement depuis l'appli, ça c'est vraiment, tu boucles la boucle avec ça.
C'est exactement ça.
Là tu ferais une vraie téléconsultation à distance, enfin vraie, en tout cas... en tout cas plus complète que ce qui se passe habituellement.
Beaucoup plus complète, et surtout si tu couples ça, moi, si tu vois le big picture, comme disent les Américains, c'est qu'avec tous les outils d'intelligence artificielle qui sont en train d'arriver, qui permettent à partir d'une simple webcam, il y a une boîte française aussi qui s'appelle Caducy qui fait ça, en te filmant pendant 30 secondes, ils sont capables de faire un prédiagnostic, d'analyser des trucs, des fines variations à la surface de la peau, et ils peuvent te dire...
C'est génial, ça aussi.
C'est incroyable, tu vois, tu couples ça, tu as des IA qui sont capables de détecter des problèmes de la rétine... Mmh. D'autres qui peuvent, en scannant ta peau avec une caméra, la caméra de ton téléphone, analyser les grains de beauté. Enfin, si tu prends tous ces appareils-là...
Toute cette technologie...
Bah, en fait, tu vois, pour le coup, la téléconsultation, ça aurait du sens. Ouais. C'est une solution pour les gens qui sont dans des déserts médicaux, on en parle tout le temps.
Non, mais surtout, ça désengorgerait, si tu veux, les médecins, pour plein de choses, quoi, finalement. Ça serait peut-être le premier, tu vois, le premier passage. Si t'as un problème, bah écoute, après tu vas voir ton médecin, mais si t'en as pas, ok, allez, c'est bon, tes constantes sont bonnes, reste à la maison, tu prends un Doliprane, quoi.
Alors, t'as un truc comme ça qui existe déjà en pharmacie, hein. T'as une boîte française qui fait ça, t'as une sorte de cabine avec tous les instruments, etc.
Ah oui, la cabine.
Voilà, et tu fais ta consultation dans la cabine.
Oui, bien sûr,
mais
c'est plus lourd.
Mais là, faut aller dans la pharmacie.
Voilà, faut aller dans la pharmacie. Donc voilà, ça existe déjà, sauf que là, ce qui est génial, c'est que c'est miniaturisé, ça tient dans le placard. Je pense qu'il y a des profils aussi, si tu as plusieurs enfants, tu peux faire rapidement.
Il y a un prix ou pas encore ?
Ouais, ce sera 250€. Donc, c'est un petit budget quand même. Hein,
ouais, c'est clair. Mais tu vois, la Sécu devrait s'intéresser à ce type de produit.
Bah, parce que là, on est vraiment dans le préventif.
Quoi. Et voilà,
Tu peux avoir une analyse en continu de tes métriques, de tes informations vitales.
Les gens se fient à ça. se disent que voilà, un petit objet rectangulaire va nous donner des constantes fiables. Ouais. Et qu'ils n'aient pas peur, parce que souvent les gens se disent oui, les montres connectées, je ne sais pas si ça marche vraiment.
Il y a Toubib aussi. Hein. Les Toubib aussi. Ouais. Moi j'ai un tensiomètre Withings, j'ai la montre Withings, et il manque juste le
tensiomètre.
Bah, voilà. Et en fait, souvent quand tu arrives avec tes courbes, tu es en disant bah voilà, petit coup de mou, etc. Et tout, et tu dis ah non, bah, attends, on va tout refaire avec des vrais instruments.
Ouais, il y a encore une méfiance.
C'est encore une méfiance.
Ça dépend du médecin, en fait.
Voilà. Ouais, bah, mon médecin, ouais, là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que quand tu montes le truc, tu dis, ben bah, voilà, c'est quand même propre hein, ce que j'amène. J'amène pas de données.
C'est fiable.
C'est fiable. Ouais,
mais t'as raison. Hein, faut voir le monde médical. T'as vraiment ce côté. T'as des gens qui sont très réticents et d'autres qui sont hyper preneurs. Moi, mon médecin du sport, par exemple, à chaque fois que j'y vais, il prend mon appli Garmin et il regarde la variation, l'intensité de l'entraînement, le rythme cardiaque, le machin et tout, et il prend ça au sérieux.
Au sérieux, bien
sûr. Lui, c'est de la vraie data, en fait.
Parce que voilà, il est, on va dire, sensible à toute cette technologie.
Et ce qui va être fabuleux, en deux secondes, c'est tout ça, toute cette data, en fait, ça va être avec l'IA. En fait, l'IA, on s'est aperçu que l'IA, elle va être géniale pour faire les diagnostics. Parce qu'en fait,
bien sûr,
on tombe souvent sur des médecins, des radiologues, qui en fait, il y a souvent beaucoup d'erreurs. Le taux d'erreur est assez élevé. Et avec l'IA, en fait, avec le big data et
on va réduire ce taux d'erreur,
on aura des diagnostics beaucoup plus fiables. Et c'est voilà, pour une fois qu'il y a une véritable utilité, je pense que
c'est cool.
Ça va être bien. Avec des petits outils comme ça, en plus.
Bon, on va se faire. Tu vas nous faire un petit check-up pendant la pause, là.
Ça va, hein, je veux. Ouais.
Voilà. Et on revient pour la deuxième partie de Quoi je me mêle. Le Computex, le grand salon dédié aux puces, à l'informatique de Taïwan. On va tout vous dire, avec évidemment le règne de Nvidia. On parlera aussi de cette annonce bizarre de Microsoft, comme quoi, bah, si vous avez un PC qui ne peut pas faire tourner Windows 11, ben. Bah, achetez-en un autre.
Hein. Le à la poubelle.
Voilà. Et puis, on vous racontera notre petite visite dans un studio Dolby Atmos avec JB de The Collection. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Pour tous ceux qui aiment le son, je vous invite à rester là. Allez, deuxième partie de Quoi je me mêle dans un instant. Merci d'être là. À tout de suite.
De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De Quoi je me mêle. François Sorel.
Le retour de Quoi je me mêle, notre deuxième partie. Merci d'être là. De Quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end, vous le savez, audio, vidéo, le samedi et dimanche sur BFM Business et en exclu dès le vendredi sur YouTube et en podcast audio avec, pour ce week-end, pour commenter l'actu, Anthony Morel est là. Nous avons JB de The E-Collection et Nicolas Guyot de Clubic. Voilà, et on poursuit, on attaque avec les annonces du Computex. Et oui, cette semaine s'est déroulée à Taïwan, l'un des plus grands salons dédiés à l'informatique aux puces qui s'appelle le Computex, qui est, bon, voilà, pas aussi puissant que le CES, etc. Mais malgré tout, c'est là-bas que les constructeurs annoncent les nouveaux PC, les nouvelles puces, etc. etc.
C'est là-bas que tout est fabriqué, de toute façon.
Oui, voilà, c'est voilà, ça. Ouais, donc voilà, on fait ça à la maison.
Joue à la maison.
Circuit court,
à domicile.
Voilà, circuit court à domicile. voilà. C'est la grande messe, en fait, ouais, des composants électroniques. Et comme, en fait, tous ces fabricants de composants électroniques, avec le temps, sont devenus des fabricants de PC, de cartes graphiques, etc. Et tout, ça, c'est là, c'est l'endroit pour présenter toutes les nouveautés.
Ouais. Avec quand même la star de cette édition 2024. Alors, il y a deux stars. Il y a l'intelligence artificielle et Nvidia.
Ouais, qui vont ensemble, évidemment.
Bien sûr.
Mais alors, du coup, qui donne aussi un peu plus de lustre et de prestige à ce Computex, parce que moi, je vais t'avouer, alors je ne sais pas pour vous, mais Nvidia, par exemple, leur keynote, moi, jusqu'ici, je les suivais de loin. Quoi. C'est-à-dire que, je regardais les annonces, les communiqués,
il
y a une nouvelle GeForce, super, machin. Maintenant, en fait, je les trouve aussi enthousiasmantes quasiment que des keynotes pour présenter un nouvel iPhone, parce que, d'abord, parce qu'ils les vendent hyper bien, ils sont devenus très, très forts en termes de com, Nvidia. Ils ont ce patron qui est iconique, Jensen Huang, avec sa veste de cuir,
très charismatique,
Et puis il a ce look, comme Steve Jobs à l'époque avec son col roulé. Lui, il a sa veste de cuir, il arrive sur scène, il a des discours sur la révolution technologique. C'est une vraie rockstar. Hein. On l'a vu d'ailleurs, il y a eu des images cette semaine, on le voit qui signe le soutien-gorge d'une nana sur le Computex. Tu vois. Non, mais c'est pas tous les patrons de la tech qui font ce genre de truc, tu vois. Donc, et puis il a une histoire absolument incroyable.
Signer le soutif
de quoi?
Je vois pas Tim Cook signer le soutif.
Non, mais on l'a jamais vu en tout cas.
Non,
après, peut-être, on sait pas. En privé, on n'en sait rien.
Je vous dirai s'il le fait.
Ouais, voilà.
Mais bon, non, mais tout ça pour dire que vraiment il y a un truc qui est en train de se passer autour d'Nvidia et que du coup ça rend aussi le Computex un peu plus excitant. Moi je t'avoue, j'ai suivi du coup la keynote, ce que j'aurais jamais fait il y a encore 2 ou 3 ans, keynote qui a duré 2 heures, hyper intéressante. Ils ont annoncé pas mal de choses, alors bon, on va pas tout égrener, mais moi il y a 2 choses qui m'ont marqué. Il y a une technologie un peu fondamentale et puis l'autre plutôt effet waouh. Le côté fondamental, c'est les nouvelles générations d'architecture pour les GPU, pour les futurs GPU, donc qui s'appelle Rubin, qui sera encore plus puissante. Il faut rappeler, hein, les GPU, c'est le cerveau de l'intelligence artificielle. Hein. En gros, c'est ce qui permet de faire tourner les modèles, de les entraîner et puis de les faire tourner au quotidien. À chaque fois qu'on utilise ChatGPT, à chaque fois qu'on utilise Midjourney, on utilise des GPU évidemment. Et ce qui est dingue, c'est l'accélération de l'innovation, parce qu'il y a à peine 3 mois, ils nous avaient déjà annoncé une nouvelle génération qui s'appelle Blackwell, qui était censée être beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficiente d'un point de vue énergétique que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et il faut rappeler que ces GPU, c'est ce que tout le monde achète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit X pour l'entreprise d'Elon Musk, que ce soit Meta, tout le monde se rue sur ces GPU. Il n'y a pas assez d'offres. Et d'ailleurs, Nvidia choisit ses clients, ce qui est vraiment un problème de riche. Tu vois, il n'y a que dans les marques de luxe que tu vois incroyable. Ça. Et donc, ils avaient annoncé cette nouvelle génération. Elle n'est même pas encore sur le marché, que là, ils nous annoncent la prochaine. Et il a expliqué sur scène, en fait, on va accélérer le rythme de l'innovation. Jusqu'ici, c'était tous les 2 ans. Maintenant, ce sera tous les ans. Voilà, comme les nouveaux iPhones, il y aura tous les ans une nouvelle génération de puces IA qui vont débarquer parce que l'innovation, ça va extrêmement vite dans ce domaine. Donc, déjà, ça, c'était, je trouve, hyper intéressant.
Ils ont trouvé le filon, quoi.
Ah, là, laisse tomber. C'est battu.
Si c'est chaque année une nouvelle génération, ça veut dire que ton ordinateur sera déjà has-been?
Non, c'est plus pour les
GPU, pour les data centers. C'est pas pour particulier.
C'est pour les data centers. Pour expliquer pourquoi en fait on utilise ça dans les data centers. C'est à la base d'un GPU, ce qui nous sert pour jouer sur PC. Ce qui est dans votre carte graphique, c'est un processeur comme le processeur central de votre PC, sauf qu'en fait il y a des millions d'unités qui calculent en parallèle. C'est des unités très simples en parallèle et ça fonctionne comme un système neuronal. Donc en fait, c'est pour ça que l'IA en fait s'est emparée de cette techno. Parce que globalement, c'était limite sur étagère, quoi. Alors, c'est un grand malin, le Jensen Wong. Hein. Le gars, il avait déjà la vision. Parce qu'en fait, moi, ce que j'adore avec... Moi, je suis... Nvidia, ça fait partie des confs que je suis depuis très longtemps. On en parlait tout à l'heure. Le truc, c'est qu'en fait, ils avaient déjà cette vision. Ils savaient qu'ils avaient ça. Et sauf que là, en fait, c'est en train d'exploser parce qu'il n'y a que sur le marché.
Ouais, voilà. C'est dingue, ils ont l'autoroute devant eux. Quoi.
Il faut voir, casquette BFM Business 2 secondes. Cette semaine, Nvidia a dépassé Apple en capitalisation boursière. C'est la 3e entreprise de l'histoire à dépasser les 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est un truc de fou. Ils sont plus gros qu'Apple aujourd'hui.
Plus que le CAC 40, je crois, non ?
Tout le CAC 40 réuni. Leur variation, si tu veux, c'est des centaines de milliards sur une journée quand ils montent ou qu'ils baissent de 1%. Enfin, c'est vraiment devenu un truc de fou, Nvidia, vraiment. Ouais. C'est plus gros qu'Apple, il faut vraiment avoir ça en tête. Apple, c'est quand même, ça a été pendant longtemps la plus grosse entreprise du monde. Aujourd'hui, c'est Microsoft. Là, ils sont coup de coude avec Microsoft.
Et là où ils sont très forts, c'est que aussi bien au niveau des composants, ils sont énormes, mais ils assurent aussi au niveau logiciel. En fait, c'est un écosystème complet quoi, qu'ils fournissent. Et c'est la grande force, parce qu'on pourrait se dire AMD serait capable de faire la même chose, mais il n'y arrive pas. Intel, il n'y arrive pas. Et donc ils sont et à chaque fois il y a du bénéfice utilisateur, à chaque fois il y a de la promesse. C'est ce que tu disais, tu vois une présentation Nvidia, tu as l'impression d'être de vivre dans le futur. Du futur accessible, pas du truc un peu trop marketing.
Et c'est là où ils sont très forts, je trouve, c'est aussi en termes de com. C'est-à-dire que à la fois c'est une réalité technologique et en même temps ça pourrait être très chiant en fait, une présentation Nvidia, parce que on parle quand même de choses, des puces, GPU, c'est des puces, des machins. Et en fait ils y ont ajouté une forme d'incarnation. Dans la dernière, ils montraient par exemple, ils avaient fait monter sur scène une vingtaine de robots en disant en fait ça va aussi servir à ça, cette prochaine génération de robotique qu'on va avoir à la fois dans le monde professionnel et dans nos vies, les robots majordomes dont on parle depuis des années, ça va être aussi alimenté par Nvidia. Et donc tu avais tous les robots de plein de marques différentes sur scène, donc ça c'est hyper impressionnant. Et là, moi, ce qui m'a marqué dans la keynote du Computex, c'est qu'ils ont, alors ils en avaient déjà parlé, mais ils ont montré des exemples concrets d'une technologie qui s'appelle ACE, donc A-C-E. C'est une technologie assez dingue qui permet d'utiliser l'IA pour générer des humains numériques, donc c'est des avatars ultra réalistes dont on va servir dans plein de domaines. Par exemple, ils se sont sont alliés avec une start-up qui s'appelle Hippocratique dans le domaine de la santé. Et donc, tu vas avoir des infirmiers et des infirmières virtuelles avec lesquels tu vas pouvoir discuter en langage naturel, comme si tu discutais avec un vrai médecin. Ce sera payant, hein, font payer ça 9$ de l'heure, mais tu as une vraie consultation. Par exemple, tu sors d'une opération, tu sors de l'hôpital, tu vas discuter avec l'avatar, tu vas j'ai oublié de demander au médecin s'il fallait que je prenne de la pénicilline, est-ce que c'est compatible avec les médicaments qu'il m'a prescrit et tout ça. Et en fait, cette IA sous forme de, encore une fois, d'un avatar qui va te répondre
va
sans
te
temps
répondre,
de latence
bien
et
sûr.
Il va
et
te
avec
répondre.
Une certaine bienveillance,
exactement.
Avec la patience qu'un médecin n'a pas forcément,
c'est
parce
ça.
Qu'il a d'autres choses à faire après, c'est vrai que ça change pas mal de choses.
C'est dingue.
Après, il faut que l'IA soit parfaite, il faut pas d'erreur. Quoi,
c'est toute la question derrière.
Parce que si tu prends de la pénicilline et que t'es allergique...
Le problème de la santé, oui, ça c'est... Oui.
Ça c'est pas bon, ouais. Jensen, il va pas être content. Hein.
Clairement.
Je sais pas si vous avez vu aussi la présentation de G-Assist, moi c'est surtout ça, c'est donc G-Assist, en fait c'est une IA embarquée quand vous jouez, alors je reviens un peu au côté gaming, vous jouez, vous êtes tout le temps bloqué, au lieu d'aller prendre votre téléphone ou votre ordinateur pour aller chercher la soluce ou truc, vous parlez à votre ordinateur... Et il vous donne la solution. Mieux, vous êtes en train de jouer, vous faites « Ah, les graphismes sont pas terribles, etc. Est-ce que tu peux m'optimiser ça ?» Clac.
Le truc qui t'optimise.
Il t'optimise et tout, il te met une courbe en
la
disant « Voilà,
ton
voilà, voilà. » Et donc tout ça fonctionne avec GPT-4 derrière, etc. Et c'est by Nvidia avec un soft intégré dans vos prochains pilotes, etc.
Dingue.
Le fou, quoi. Ouais.
Pas mal.
Non, bon. Ils sont très forts, ils sont très forts.
Et puis les autres sont à la traîne. Hein.
Ça avance. Il y a eu des annonces aussi du côté d'Intel. Il y a eu
AMD aussi. AMD pousse pour les puces, pour les data centers là, pour l'IA. Il y a aussi, je reviens à Nvidia, une petite rumeur là qui tourne en ce moment sur une puce pour 2025. Pour les PC, copilote plus PC, vous savez, on avait parlé des PC on arm.
Bien sûr. Qualcomm est sur le coup avec ses Snapdragon. Voilà. Et Nvidia pourrait lancer aussi sa puce.
Avec un Blackwell. C'est-à-dire, en fait, vous auriez une partie ARM pour faire tourner le système et le GPU serait décliné de Blackwell, dont on vient de parler, qui est la nouvelle puce qui va être annoncée, en tout cas dans le monde grand public, d'ici à la fin de l'année, sur les séries 5000 RTX. Plein de belles choses. Et puis Intel qui court derrière. Parce qu'en fait, l'Intel, ce qui était assez surprenant, ils ont présenté Lunar Lake, qui est leur nouvelle plateforme
censée en fait concurrencer celle de Snapdragon sur les PC copilotes.
Et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'en fait, tout est fabriqué à Taïwan, chez TSMC. On se dit Intel, le géant.
Oui, qui est fondeur.
Qui est fondeur à la base, c'est son métier. Il a des usines partout dans le monde, etc. Bah, leur nouvelle puce. Alors, effectivement, ils ont travaillé sur les économies d'énergie, etc.
Mais ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de pouvoir produire des puces comme ça.
Je pense que s'ils veulent concurrencer Qualcomm et ARM, effectivement, ils sont obligés d'aller chez TSMC pour graver en 3 nanomètres. Alors, c'est des puces en mode patchwork avec des cœurs basse consommation en 3 nanomètres, du 6 nanomètres en performance cœur. Voilà, et plus une partie NPU justement pour s'intégrer dans les nouveaux ordinateurs. Donc en tout cas, ça va être passionnant tout ça.
Ouais.
Parce qu'on sait, est-ce que ARM va gagner, le X86 va-t-il résister, Nvidia va-t-il tout écraser?
La suite au prochain numéro.
Voilà.
Voilà. Et puis derrière, il y a Apple hein, qui évidemment prend, on va dire, très sérieusement ce chapitre de l'IA avec la puce M4 hein, qui a été conçue pour ça aussi. Hein. Il faut voir après si elle est aussi puissante que...
Mais ils tirent tous la bourre en disant « je suis meilleur que toi sur la puissance, sur les graphismes,
De toute façon, ça a toujours été comme ça dans la tech.
Hein, là, ce qui va être vachement intéressant, en tout cas la tendance, c'est se dire aujourd'hui les puces vont pouvoir faire de l'IA en local.
Ouais.
Et ça, c'est quand même pas mal pour la planète parce que...
Tâches simples, IA locale, et tâches complexes, là, ça sera le cloud.
Bon, après, avec tous les problèmes de RGPD, machin, etc.
C'est
autre chose. C'est un autre épisode, ça.
Alors... Évidemment, quand on parle de PC, on parle de Microsoft. Microsoft qui, vous le savez, à marche forcée, met à jour, hein, c'est Windows. Windows 11 est bien installé. Le seul truc, c'est que Microsoft va pousser en fait, ses utilisateurs à passer à Windows 11.
Voilà.
Okay ? Donc, si vous avez un PC sous Windows 10, vous avez de la chance, vous pouvez upgrader et passer sous Windows 11, il est assez puissant et pas trop vieux. Mais si, en revanche, il n'est pas capable d'avoir Windows 11, Microsoft a trouvé la solution, Nicolas. Oui. Elle est toute simple.
Le conseil, il est super simple. Achetez un nouveau PC.
Mais voilà.
On n'y avait pas pensé.
Franchement, qu'est-ce qu'ils sont malins, les gars.
C'est très, très fort.
Très, très fort.
C'est très 2024, en fait. Non, en fait, ce qui est assez... Faut rappeler à nos téléspectateurs que, globalement, Windows 10 s'arrête le 14 octobre 2025. C'est-à-dire, 14 octobre 2025, il n'y a plus de mise à jour. fini.
Il faudra même de sécurité.
Alors, même de sécurité, il faudra payer pour avoir des mises à jour de sécurité. Donc ça s'adresse surtout aux entreprises, parce que vous n'allez pas payer pour mettre à jour votre Windows 10. Donc voilà, donc, et Windows 10 aujourd'hui, c'est quand encore 70% de part de marché sur les PC. Donc voilà. Donc là, Microsoft commence à dire bon les gars, c'est bien.
Vous avez encore un an, changez de PC, quoi. Comme ça, vous aurez Windows 11.
Sauf que les spécifications techniques de Windows 11 imposent des puces de sécurité
qu'on n'a pas dans les PC qui ont été conçus pour Windows 10 à l'époque.
Voilà. Et pourtant, ils en ont quand même la fameuse puce TPM qui pose problème, etc. Il faut que ce soit compatible TPM 2. Et c'est le problème que globalement, c'est que les PC de dernière génération qui ont cette puce. Et donc, on va se retrouver avec un parc. Et moi, je vous le dis, ça va faire comme Windows XP. Ça va faire comme Windows XP, les armées de PC zombies. On estime aujourd'hui à peu près il y a 240 millions d'ordinateurs qui ne sont pas éligibles à la mise à jour de Windows 11.
Waouh.
Ça fait beaucoup, hein.
Ça fait beaucoup. Bon alors, c'est les Asus, les Acer, les Lenovo, les HP, ils se doivent se frotter les mains.
Écoutez Microsoft.
Il faut les écouter, attendez. Ils ont raison. C'était très intéressant.
C'est pour votre sécurité, vraiment, c'est pour votre bien. Non mais c'est marrant parce que ça fait 3 émissions qu'on parle de ce décalage incroyable entre le discours de ces grands groupes technologiques sur le green et les actes, quoi.
Et les actes.
Parce que à chaque keynote, ça pour nous bassiner sur la planète Terre, mère nature, machin, les emballages en papier recyclé et les machins et la compensation du carbone, c'est très bien, mais par contre après derrière c'est surtout racheter un PC les gars, parce que
les vidéos de 10 minutes où on est en pleine nature, on t'explique que globalement c'est vachement important la nature alors par contre il y a quand même des petites solutions mais c'est dommage, c'est dommage pour eux, mais en fait alors après on peut dire vous pouvez installer Linux, qui va installer Linux sur un PC, je sais que Linux c'est très bien mais il faut quand même maîtriser, c'est pas Madame Michu, c'est pas
ça c'est pas le conseil de Microsoft
ça ils connaissent pas mais Chrome OS par exemple, ça pourrait être une bonne idée pour ceux qui veulent garder un ordinateur à jour. Après je pense qu'il y a encore une grande partie des utilisateurs qui en ont rien à foutre.
Mais qui s'en foutent en fait de Windows 11 et le copilote et tout ça.
Non, mais même de leur propre sécurité.
Bien sûr.
Ils sont persuadés qu'un bon antivirus, ça fait l'affaire. Et voilà.
Il nous reste 5 minutes. On va vous raconter notre visite avec JB dans un studio d'enregistrement dans le 17e. On a été invité par Dolby et Apple. Pour voir comment ça se passe en fait dans les entrailles d'un remix et du concept Dolby Atmos. Moi perso, je suis fan de son. Quand on fait de la radio, on a tout le temps un casque sur les oreilles. Moi, j'ai grandi avec un casque sur les oreilles et je suis passionné de son. Je ne sais pas combien j'ai de casques et de trous wireless à la maison. Et je trouve très intéressant cette vision qu'a Dolby de sortir de la stéréo, qui est un peu, on va dire, le standard du son, de la musique, etc., à une autre dimension qui est le Dolby Atmos, où là, comme au cinéma, tu te retrouves avec des mix de chansons qui sont à 360, avec des effets de profondeur de dingue. Ouais, JB, on a pu visiter en fait l'un des studios français les mieux équipés là-dedans, qui mixe plein d'artistes, et on a rencontré un ingénieur du son qui était américain, je crois, et qui nous a expliqué un peu la philosophie de ce Dolby Atmos, et c'était passionnant, quoi.
Super intéressant, parce qu'ils sont partis du postulat qu'il y a 3 façons d'écouter de sa musique. Soit, comme on le voit dans les images actuellement, c'est d'avoir 10-15 enceintes dans une pièce disposées partout, au plafond, dans les murs, partout.
Ce qui n'est pas le cas pour
c'est
tout
pas,
le monde.
Voilà. C'est pas chez tout le
monde. Mais là, je vous dis pas, on a écouté Elton John, une chanson d'Elton John, qui était Rocketman. Donc, qui a été remixée en Dolby Atmos. On était là-dedans, mais c'était incroyable. Moi, j'étais tétanisé.
Il était avec vous,
Elton.
C'est ça, t'avais l'impression qu'il était avec vous.
En fait, c'est la scène sonore, si tu veux.
Des instruments ou des petits bruits que tu n'as jamais entendus auparavant. Ouais. Parce que vu le nombre d'enceintes qu'il y a et vu en fait, la spatialisation qu'il y a en même temps, et en fait, il nous faisait la démo en temps réel via Logic Pro, qui est un logiciel d'Apple, sur comment on transforme une musique classique en Dolby Atmos plus audio spatial. Et il nous disait, on met une personne au centre et au lieu que l'objet soit fixe, on va pouvoir le mouvoir tout autour de soi. Et en fait, ça va d'une enceinte à l'autre et on entend exactement l'objet arriver. Comme quand on est, par exemple, au cinéma en Dolby Vision, Dolby Atmos, où le son fait tout le tour de la salle.
Et en fait, ça change tout pour les ingénieurs du son, cette histoire-là. Parce qu'avant, ils avaient, pour s'exprimer en termes d'arrangement, de mix, que de haut-parleurs. Là, en fait, ils peuvent imaginer, si tu veux, des mix complètement fous, avec des sons 3D qui partent dans tous les sens, etc. Et tu te dis, Elton John, Rocketman, c'est une chanson qui a 50 ans, plus de 50 ans, enfin c'est un truc. Sauf qu'ils ont récupéré les matériaux de l'époque, ils ont retrouvé toutes les pistes.
Ils ont tout remasterisé,
ils en ont fait une espèce de, de fichiers étalons du Dolby Atmos qui est incroyable. Génial. Et aujourd'hui, tous les artistes, parce que Apple et Dolby, qui sont très malins, sont très forts en marketing, poussent tous les artistes à remixer leurs fichiers en Dolby Atmos. Et aujourd'hui, sur Apple Music, tu as énormément de titres. Toutes les nouveautés, on va dire, un peu bankable, sortent en Dolby Atmos. C'est intéressant.
Et tu disais, soit pour en profiter, soit il faut avoir 15 enceintes chez toi, soit c'était quoi l'autre?
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, grâce aux algorithmes, explique JB.
En fait, c'est ça, c'est grâce aux algorithmes, tu peux donc soit le profiter dans cette pièce-là avec toutes tes enceintes, mais comme on était avec Apple, l'idée, c'est de le prendre on the go, c'est-à-dire chez soi. Le meilleur moyen, c'est les AirPods, pour le coup, AirPods Max, qui permettent d'avoir l'audio spatial et Dolby Atmos via Apple Music. Parce qu'il faut rappeler que Spotify, par exemple, aujourd'hui, ne propose pas encore de Dolby Atmos et de musique en lossless. Apple Music le propose. Et donc là, ils poussaient ce principe de dire que vous voulez écouter de la vraie bonne musique qui se balade un peu autour de vous, alors que vous avez juste deux petits écouteurs sur vos oreilles. AirPods.
Alors moi j'étais moins convaincu avec les casques, en fait. Je trouve qu'on perd un peu ce son 3D.
Fait tester les casques, les écouteurs, faire un peu un comparo. Ouais.
Exactement. Mais en revanche, la troisième démo c'était avec Sonos, où là t'avais une barre de son, ok, t'avais une télé, une barre de son, il y avait un canapé, t'avais deux caissons de basse et t'avais deux enceintes Dolby Atmos, okay. Sonos. Et là, avec donc cette configuration qui est beaucoup plus acceptable, hein, tu avais beaucoup moins de haut-parleurs, quand tu écoutes, est moins cher, bien sûr, et plus accessible, là tu te retrouves avec un son incroyable. Parce que, en fait, le Dolby Atmos, c'est aussi des algorithmes et des sons qui rebondissent dans la pièce. Il y a des capteurs dans les enceintes qui arrivent à mapper la salle, en fait. Et donc, après, le son est rebondi et arrive dans ton oreille. Donc, tu arrives à restituer tous les haut-parleurs de manière virtuelle qu'il y avait dans la première zone d'écoute qu'on avait, où il y en avait, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines.
Dingue.
C'est impressionnant. Franchement, moi, j'étais très dubitatif, mais c'est vraiment une petite révolution dans le domaine du son. Et si vous êtes mélomane, c'est vrai que les mélomanes sont plutôt, en général, arc-boutés sur la bonne vieille stéréo, la haute fidélité, etc. Mais franchement, le Dolby Atmos, c'est quelque chose d'assez impressionnant que je vous invite à tester au moins une fois.
Aussi un autre. Il commence à avoir des fabricants entiers qui fabriquent des casques et des écouteurs Dolby Atmos. Alors nous, on a souvent des lecteurs qui disent mais pourquoi faire, etc. Et tout. Mais justement pour ça, en fait, c'est un écosystème complet qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, si vous êtes sur Apple Music, parce qu'il faut être sur Apple Music pour bénéficier de ce Dolby Atmos, c'est quand même assez bluffant.
À tester si vous avez l'occasion. Franchement, ça vaut vraiment le coup.
Les artistes, est-ce qu'ils ont leur droit de regard sur
C'est eux qui décident.
C'est eux qui décident de A à Z. Placement de telle ou telle musique, de tel ou tel instrument.
En fait, c'est une nouvelle dimension de créativité en termes de son. Et franchement, à tester quoi. Vous savez quoi, on va se dire au revoir parce que ce de quoi je me mêle est terminé, mais si vous êtes avec nous en audio ou si vous n'êtes pas en audio, je vous invite à nous rejoindre sur le podcast, puisque le petit module bonus qu'on va vous proposer dans un instant sera dédié à Orange. Peut-être l'avez-vous vu, mais Orange a décidé de passer tous ses abonnés en 5G pendant les JO. Et on se dit pourquoi? La réponse, vous l'aurez si vous nous écoutez dans le module bonus de quoi je me mêle en podcast audio. Voilà. En tous les cas, merci de nous suivre. On sera là, bien évidemment, la semaine prochaine. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Et le voilà, le petit module bonus de quoi je me mêle, exclusivement pour la version podcast audio. Vous le savez, on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter, on vous en remercie, et pour vous remercier justement, on vous offre ces petites minutes supplémentaires, toujours avec Anthony Morel de BFM Business, Nicolas Guyot de Clubic et JB de The E-Collection. Bon, vous avez vu cette info étonnante d'Orange ? Orange qui a communiqué sur le fait que tous les abonnés de l'opérateur mobile qui étaient en 4G vont passer en 5G pendant les JO.
La durée des JO, ouais.
Durée même. Parce que ouais,
ça a commencé lundi.
Alors, c'est pas indéfini, les amis. Commencez pas à faire la fête. En septembre, ça sera la rentrée. On repassera en 4G. Ouais. C'est intéressant, cette décision, parce qu'elle a plusieurs entrées. En fait, il y a une décision marketing. Orange se dit, pendant les JO, nos abonnés vont pouvoir tester la 5G. Peut-être qu'après, il y en a plein qui vont se dire, finalement, la 5G, c'est trop cool, je vais y rester. J'y crois pas trop, moi, sincèrement, j'y crois pas trop. Ça, c'est la première version. Et puis après, il y a la version technique. Je sais pas si vous avez suivi un peu tout ça.
Justement, c'est la version technique, c'est pourquoi, en fait, offrir la 5G. Parce qu'en fait, derrière, c'est qu'il va y avoir énormément de touristes qui vont arriver pour les JO, les antennes vont être saturées.
Ils vont exploser la 4G.
Voilà. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, les Français, on va les basculer sur la 5G. Alors qu'il y a Orange et Sosh. Hein. Donc, c'est la moitié des 22 millions d'abonnés Orange qui passeront en 5G.
Donc, ça va soulager,
ça va soulager les antennes. Ils ont beau en rajouter, parce qu'ils vont rajouter plein d'antennes pendant les JO. Hein. Il y en a notamment, mais quand on se retrouve sur le bord de Seine, 320 000 personnes qui se connectent en même temps pour envoyer les vidéos.
Ça va être un enfer.
Ça va être un enfer,
un opérateur, ça va être un cauchemar.
Faut-il pour le consommateur avoir le smartphone adéquat compatible 5G?
Alors, il faut l'avoir déclaré auprès d'Orange. C'est-à-dire, en fait, il faut avoir déclaré que globalement.
T'as ton téléphone 5G.
Voilà, soit reconnu que c'est un téléphone
5G. Mais comment tu déclares ton téléphone?
Bah, il faut en fait dans les.
C'est pas automatique.
Non, mais ouais, normalement, c'est automatique. Mais tu sais, de temps en temps, tu peux acheter ton téléphone sur AliExpress, machin truc, etc. Il y a un numéro que l'opérateur reconnaît pas forcément.
Ah, d'accord.
Donc voilà, il faut que dans ton interface, tu vérifies bien que le téléphone est reconnu. C'est un Pixel, machin, c'est un iPhone.
Parce que si tu dois faire la démarche, c'est quand même plus compliqué. Quoi.
Ouais, déjà.
Non, mais après, c'est un truc à faire dans le.
C'est bien.
Et après, il faut activer, pas oublier d'activer la 5G sur le téléphone, quand même.
C'est mieux.
Mais ça se fait en deux clics.
Je vais être un peu méchant, mais vous ne pensez pas que en fait, les consommateurs, ils vont se rendre compte que à quel point la 5G, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est un peu ça dans la réalité du truc.
Mais déjà, ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'en fait, dès qu'un réseau 4G sature, l'opérateur balance directement sur la 5G.
Parce que c'est vrai que c'est l'intérêt, il est là.
Sauf si tu n'as pas l'option 5G. Bah,
non, si. En fait, même, tu es saturé complètement. En fait, tu bascules.
J'ai un abonnement 4G, je n'ai pas de 5G.
Tu basculeras sur la. Si ton téléphone est compatible avec les antennes 5G,
tu bascules.
Il va basculer, tu ne le verras pas.
Sur les gros événements.
5G.
Non, voilà. Sur les gros. Voilà. Tu vas au Stade de France,
c'est
pour ça que c'est un gros événement.
Et c'est pour ça que c'est purement marketing, parce qu'en fait, ils le font déjà. L'annoncent, mais en réalité, c'est un truc qu'ils font sur tous les gros événements.
Mais gouverner, c'est prévoir, en fait. Je pense qu'ils ont raison.
Ils ont raison
de faire ça.
Mais après, sur la partie, les consommateurs vont avoir la 5G et tout à coup, ils vont se dire waouh, c'est génial.
C'est génial, j'ai le 5 qui s'est affiché sur mon téléphone.
Non, mais sérieux, moi, je vais te dire, il y a un moment, je suis passé de la 4 à la 5G sur mon téléphone perso. Je sais pas pour vous, mais.
De toute façon, déjà, t'as de la fausse, t'as de la vraie 5G, il y a plein de trucs.
Mais j'ai pas vu la différence. Voilà. Qui voit la différence? Pour les applications industrielles, médicales, je vois très bien à quoi ça peut servir. Pour monsieur et madame tout le monde, dans la vie de tous les jours, quand t'es dans le métro à regarder des vidéos.
Si tu veux remplacer, si t'as un problème de fibre, on te coupe la fibre, etc., en remplacement, c'est quand même mieux d'avoir la 5G que la 4G. Parce que t'as quand même du débit.
Du débit, et puis t'as moins de risque d'être saturé, etc. Mais moi qui suis un fan des speed tests, mais tout mon entourage me dit que je suis fou, quoi. J'arrive dans un endroit, je fais un speed test. Pourquoi? Mais je m'en rends même pas compte, en fait. Je lance un speed test.
Et tu fais des notes après? Tu dis à tel endroit?
Non, mais ça s'enregistre automatiquement avec la speed test.
Non, François, on repart directement.
C'est rapide.
Non, mais excusez-moi.
J'ai fait un speed test en 5G.
François, c'est soirée raclette quand même.
Non, soirée speed test. Et croyez-moi, je vais beaucoup moins grossir que vous. Mais en revanche, je connaîtrai le réseau par cœur. Non, mais bon, j'exagère, j'en fais pas tout le temps, mais de temps en temps, ça m'arrive. Et c'est vrai qu'en 5G, sur mon iPhone, tu montes à 1 gigabit.
Bien sûr. Non, mais encore heureux.
C'est monstrueux.
Mais à quoi ça te sert par rapport à 100 mégabits?
Rien du tout. Mais tu te dis malgré tout que si, par exemple, tu as un problème de Wi-Fi ou quoi, tu fais du partage de co, tu as une très bonne connexion. Voilà. Ça, c'est pratique. Mais après, c'est vrai que ça sert à rien.
Pour envoyer des fichiers pour les JO, les gens, ils vont tout partager sur les réseaux sociaux. Ça va être pratique de pouvoir.
Sur un gros événement.
Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est Orange. Orange a énormément d'accords dans le monde avec d'autres opérateurs.
Oui.
Et quand on va voir nos petits supporters, les touristes pendant les JO. Je pense que voilà, il y a beaucoup de monde qui vont arriver en France et ils vont être connectés sur le réseau Orange.
Ils sont pas partenaires des JO Orange, non?
Partenaire technologique, parce qu'ils s'occupent de toute l'infrastructure réseau, ce qui est normal, c'est l'opérateur français, et ils ont la primeur en quelque sorte, le premier opérateur français. Mais ça va être intéressant de voir, c'est intéressant de voir qu'il n'y a qu'Orange qui fait ça, les autres ne font pas.
C'est eux qui risquent le plus de saturer leur réseau. Mais en fait, ce qui est assez intéressant sur les événements sportifs, par exemple Orange, c'est eux qui s'occupent aussi du Tour de France. Je sais pas si vous avez. Alors, déjà, tout le monde va bénéficier de la 5G dans toute la France, pas uniquement sur Paris.
Non, c'est toute la France.
Mais quand vous avez une étape du Tour de France, parce que c'est à côté de chez vous, vous êtes fin fond de la Creuse ou je sais pas quoi, où vous galérez, vous rouspétez après le réseau, parce que là, on parle de 5G, la 4G, dans la Creuse, j'en vois pas beaucoup.
Hein. Et t'as même pas de 3G parfois. Hein.
Ouais. C'est
le petit E de
le
E flippant,
c'est du Edge au secours.
Et là, souvent, je fais pas de speed test en
tu poses ton téléphone, tu fais ta soirée raclette et
tu reviens. Fais moins le malin avec le Edge.
Mais bon, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est quand il passe, il t'ouvre les potards, c'est fabuleux, quoi. Du coup, t'as un réseau de malades, etc.
Ouais, non,
et là, c'est encore plus énervant parce que tu te dis, mais pourquoi ils le font pas tout le temps, en fait, quoi. C'est, ouais. Mais ouais.
Il faut poser des antennes.
Tu sais, tu sais un peu la 5G, JB, toi, ou pas?
Oui, bah, dans les hôtels, souvent. Je prends pas le wifi des hôtels, je reste en 5G et je mets tous mes ordi en 5G directement dessus.
Ah ouais?
Ouais.
Pourquoi? Pour des questions de sécurité de...
Bon, déjà, il faut aller dans les réglages, prendre le mot de passe, faut demander tout ça. Donc en fait, la 5G, elle fonctionne quand même vachement bien et ça suffit amplement pour les choses que je fais. Donc.
Ouais, et puis la couverture 5G commence, en tout cas en France, commence à être très, très, très costaud. Hein.
Et là, Orange, on va nous rajouter une dizaine d'antennes temporaires sur Paris et une cinquantaine, ça donnera une cinquantaine au total sur la France.
Ouais.
Et donc, dernière info, les amis, qui vient de tomber, là vraiment, on vient d'avoir l'info. SFR, en fait, a réagi à l'annonce d'Orange et propose tout simplement la 5G à tous ses abonnés. C'est-à-dire, vous êtes abonné à SFR, vous n'aviez que la 4G, et bien vous allez passer forcément en 5G, gratuitement. Ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, SFR en profite aussi pour mettre à jour ses forfaits. Voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Attention, les abonnés RED n'ont pas accès à la 5G, c'est que les abonnés SFR, en fait. Donc voilà, la première réponse, c'est celle d'SFR face à l'annonce d'Orange. Et c'est là-dessus que se termine ce bonus 2 de Quoi Je Me Mail.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci JB.
Avec plaisir.
De The E-Collection. Bon voyage lors de la WWDC. Tu viendras nous en parler, bien sûr, évidemment. Tu es toujours le bienvenu. Merci Nico.
Merci François, merci à tous.
Retourne vite à la rédaction de Clubic.
On lit, on va aller
avec assiduité, voilà. Et merci Anthony Morel.
Merci beaucoup, merci à tous
de BFM Business, et puis on sera là bien sûr le week-end prochain, bien évidemment. Salut à tous.